Oui, alors bonsoir, chers auditeurs. Et bonsoir, chères auditrices. Vous avez reconnu le générique de l'émission « Et si on en parlait ?», une émission qui fait partie de la grande rubrique « Les chemins de traverse » sur Radio Calade. Émission « Et si on en parlait ?» qui a lieu tous les deuxièmes mardis de chaque mois de 18h30 à 19h. Donc là, c'est un peu la rentrée. Un petit peu la rentrée où, pendant tout cet été, nous avons été abreuvés, plus qu'abreuvés, même de l'affaire Alexandre Benalla, abreuvés d'une bataille de deux rappeurs cocaïnés à Orly, le détail des coups de poing, des coups de pied, des coups de matraque, des faux uniformes de police, des casques, etc. et tout. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle, ça nous a fait toutes nos vacances. Heureusement, enfin, pour ceux qui aiment ça, et dont je fais un petit peu partie, je le reconnais, il y avait dans cet été la Coupe du Monde de football en Russie, chez notre grand ami Vladimir Poutine, grand démocrate. Et voilà, donc nos petits Français ont gagné la Coupe du Monde, comme tout le monde le sait. Et il était prévu à cette occasion une grande rencontre avec tous les gens qui aiment les footballeurs, qui sont ravis que la France ait gagné la Coupe du Monde. La dernière, c'était il y a 20 ans. Et donc, il était prévu une grande parade sur les Champs-Élysées. Qui était un grand moment de rencontre entre ces footballeurs qui venaient de Russie et ces Français, tous ces Français, vraiment dans toute leur provenance, tous ces Français de tous les âges, toutes les catégories sociales qui les avaient soutenus fermement et fortement. Or, il s'avère que, certaines personnes dans ce défilé, cette parade sur les Champs-Élysées, certaines personnes avaient des objectifs un petit peu particuliers. Et les Français, des centaines de milliers de Français massés sur les Champs-Élysées en plein soleil, les CRS leur jetaient des bouteilles d'eau, enfin, etc. Tout le monde attendait ce grand moment. Alors après un grand moment d'errance à Orly et sur les routes, accompagnés, de tous les aficionados du foot, ils sont arrivés Champs-Élysées. Mais voilà, c'est qu'à l'Élysée, il y avait notre président Emmanuel Macron, sa femme, des ministres, des enfants, bien entendu, des clubs de foot, qui attendaient. Et comme tout ça avait pris beaucoup de retard, il y a des personnes, et surtout une personne, qui s'est chargée, fortement chargée, même puisqu'il y a eu presque bagarre avec le responsable des gendarmes qui était chargé de la protection des footballeurs dans leur car. Il y a quelqu'un qui a voulu faire accélérer le mouvement à tout prix pour que les footballeurs ne fassent pas attendre plus longtemps le roi Macron et sa cour. Et cette personne, il se trouve, comme par hasard, devinez, non mais franchement, on rigole, que c'était Alexandre Benalla. Alors cet Alexandre Benalla, on en a mangé, il a nuit, mais heureusement, il y a eu, dans la semaine, là, un match diffusé à la télévision, dans une nouvelle coupe, j'ai rien compris comment ça marche, mais enfin, c'est pas grave, au Parc des Princes, où l'équipe de France a battu les Pays-Bas. Par, après un beau match, avec un but de Kiki Mbappé, et puis de Giroud. Et après, il y avait une grande parade qui était prévue avec, tous les gens qui supportent l'équipe de France. Le stade était plein. Ça a été un moment particulièrement plaisant à regarder. Je l'ai regardé, du reste, une vraie communion avec la foule, les footballeurs qui se jetaient quasiment proche de la foule, qui faisait toucher la coupe, Giroud qui a fait un grand clapping, mêlé aux supporters, etc. C'était un moment. Et quand on a interviewé tous ces, tous ces footballeurs pour savoir ce qu'ils avaient pensé de ce qu'ils venaient de vivre. Eh ben, ils n'ont pas osé le comparer avec ce qu'ils avaient très mal vécu sur les Champs-Élysées. Parce que voilà, là, il y avait le peuple, il y avait un plaisir partagé, il n'y avait pas les obligations ministérielles et présidentielles. Voilà, alors puisqu'on en est à parler de ça, on va changer un petit peu et puis on va voir qu'il y a des gens quand même qui ont de la chance dans la vie. Ils ont vraiment de la chance dans la vie. Parce que malgré bon ben des petits problèmes qui est ou des fois des problèmes importants qu'ils peuvent rencontrer ou bien tout simplement parce que ils ont été présents au bon moment et au bon endroit, eh ben ces gens-là ben ma foi ils n'ont pas tout à fait le même destin et le même parcours que tout un chacun. Alors on va parler d'abord d'une dame qui s'appelle Agnès Sahl. S-A-A-L. Alors, cette dame, c'est l'ex-patronne de l'Institut National de l'Audiovisuel, c'est l'INA. Hein. Cette dame, ben, elle a eu des problèmes parce qu'elle avait été suspendue pour des frais de taxi exorbitants. Alors qu'il lui était fourni, bien entendu, voiture de fonction et chauffeur, voilà, quand elle en avait besoin. Mais non. Eh ben, cette dame, donc, qui utilisait beaucoup les taxis, mais on va voir comment dans un moment... Elle a été nommée haut fonctionnaire à l'égalité, la diversité et la prévention des discriminations auprès du secrétaire général du ministère de la Culture, selon un arrêté qui a été publié au Journal officiel. Alors ce poste, il a une durée de 3 ans. Il a pris effet donc à partir du 1er septembre. Et voilà. Alors cette dame, Agnès Sahl, directrice générale du Centre Pompidou de 2007 à 2014. Ensuite présidente de l'ENA de mai 2014 à avril 2015, elle avait dû démissionner après des révélations sur ses dépenses excessives et plus qu'excessives en frais de taxi. 24 000 euros à l'ENA et encore 24 000 euros au centre Georges Pompidou, dont, mais ça c'est un petit détail en passant, 6 700 euros pour les déplacements de son fils. Alors ça lui a valu 6 mois de suspension sans solde et une condamnation à 3 mois de prison avec sursis, quand même, c'est pas rien, hein, et une amende de 4 500 euros et 5 500 euros de dommages et intérêts. Alors déjà, par le passé, donc tout de suite après sa condamnation, elle avait réintégré le ministère de la Culture à l'été 2016 en tant que chargée de mission auprès du secrétaire général pour piloter les démarches de labellisation AFNOR sur l'égalité professionnelle et la diversité. Vous voyez, un petit peu avec des titres comme ça, on ne voit pas bien le travail qu'il y a derrière. Alors cette nouvelle nomination, donc, elle n'est pas passée inaperçue et elle provoque, à juste titre, l'indignation pour l'attribution d'un poste de haut fonctionnaire après une condamnation, et pas des moindres quand même, hein. Exclue de la fonction publique, prison avec sursis, amende. Alors, elle avait reconnu ses torts, etc. et tout. Mais voilà, c'est bien, elle est au chaud. Elle a un nouveau petit fauteuil. Je ne sais pas, ça doit être une copine à notre président. Alors, autre chose, encore des gens qui ont des un peu de chance. Richard Ferrand. Alors, Richard Ferrand, il était, en 2011, directeur général donc des mutuelles de Bretagne. Et il avait choisi, comme ça... Hein, de louer un local à une société immobilière qui appartenait à sa compagne. Hein, donc. Cette opération lui aurait permis de se doter, sans bourse délier, d'un patrimoine immobilier d'une valeur actuelle nette de 500 000 euros. Alors, il a été visé par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Brest dans le cadre de cette affaire. Richard Ferrand, donc, il n'est resté qu'un mois à cause de cette affaire, hein, à la tête de son ministère de la Cohésion des Territoires. Eh bien, il a été aussi élu samedi, donc, président du groupe des députés, un samedi plutôt, des députés La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et il vient d'être nommé, comme ça, très récemment, ma foi, président de l'Assemblée nationale en remplacement de nouveau ministre, monsieur de Rugy, mais nouveau ministre de l'Environnement. Voilà. Il y a des gens qui sont mouillés dans des affaires, des procédures en cours. Il y a des gens où des sanctions sont tombées. Il y a des gens qui, malgré tout, trouvent des hautes places dans les ministères ou dans les institutions. Ma foi, c'est bien. Essayez-vous de ne pas porter votre ceinture tout simplement et de faire un petit délit de fuite, vous allez voir, après inscription à votre casier judiciaire, si vous allez très facilement retrouver de l'emploi une fois votre peine purgée et les amendes payées. Voilà. Autre chose, toujours dans le même registre, hein, la République des copains, on va dire. Emmanuel Macron, donc, notre cher président, Jupiter en titre, a nommé M. Philippe Besson consul de France à Los Angeles. Alors, il faut savoir que consul de France à Los Angeles, c'est quelque chose qui est... que tout le monde veut, quoi, parce que, bon, on a les pieds dans l'eau, on sirote des cocktails à la plage, on déborde pas vraiment de travail. Les relations entre Los Angeles et la France, bon, elles sont pas trop problématiques, apparemment. Alors, voilà, Monsieur Philippe Besson, donc, un grand écrivain, auteur... un personnage de roman, donc un livre qui est à la gloire d'Emmanuel Macron. Il est proche du couple présidentiel et donc il est titulaire d'un poste occupé jusqu'ici par de nombreux diplomates. Alors lui, la diplomatie, tout ça, il ne connaît pas, mais enfin, c'est un copain à Macron. La fiction mène à tout, même à la diplomatie. Alors il succédera à l'ex-chef de cabinet de Laurent Fabius, qui a été nommé en 2015. Et selon l'Élysée, cette nomination entre dans une politique d'élargissement des viviers de nomination, comme partout dans la fonction publique. Une phrase qui veut rien dire et noyer le poisson. C'est beau comme de l'antique. Alors l'Élysée entend expliquer la nomination de l'écrivain par la poursuite de ce qu'il avait déjà commencé avec les ministres, une incursion de la société civile dans les plus hauts postes de l'État pour permettre un renouvellement de la classe politique. Mais comment expliquer la nomination d'un novice en matière diplomatique à un poste si convoité ? Eh bien, cette désignation est d'autant plus troublante qu'elle a nécessité un changement de procédure. Le 3 août 2018, c'est tout récent, il vient d'être nommé, mais le 3 août, il y a eu un changement de procédure qui est paru au journal officiel dans un décret du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Alors jusqu'ici... Les nominations de fonctionnaires ou de personnes extérieures à la fonction publique, dont la vingtaine de postes de consuls généraux, qui comprend celui de Los Angeles, se faisaient sur proposition du Quai d'Orsay uniquement. C'est normal, c'est le travail du Quai d'Orsay que de nommer ses représentants diplomatiques. Alors avec ce décret, la nomination peut se faire sur décision du gouvernement, donc de l'Élysée, hein, puisque c'est entériné en Conseil des ministres. L'Élysée a donc aujourd'hui un poids supplémentaire pour nommer les personnes de son choix à ces postes très en vue. De là à penser que le président en profitera pour remercier ses proches avec des belles places diplomatiques, il n'y a qu'un pas. Voilà. Donc, il faut quand même rappeler aussi qu'il était très proche hein, pendant la campagne présidentielle de M. Macron, il a suivi tout le long de la campagne, il a écrit donc son livre à la gloire de Macron, un personnage de roman. Il est très proche de la famille surtout de Brigitte Macron, tant bien qu'il était l'un des invités du fameux repas à la Rotonde, la brasserie parisienne où Macron avait célébré sa victoire au premier tour de l'élection, en présence, ma foi, de tous ses soutiens. Alors on pourrait croire comme ça, ben voilà, c'est un exemple. Ben non, ce n'est pas un exemple. Ça fait partie d'une longue liste de personnes soutiens ou proches d'Emmanuel Macron qui ont été nommées à des postes, on va dire, pour le moins intéressants. Et pour des mérites qu'ils n'ont peut-être pas, si ce n'est d'être des proches de la famille Macron. Alors un petit florilège, parce que si je faisais la liste de tout, ça prendrait vraiment trop de temps, on va commencer. Alors lorsqu'il s'agit de remercier ses soutiens politiques, Emmanuel Macron ne rechigne pas à utiliser les bonnes vieilles méthodes de l'ancien monde, hein, qu'il décrit depuis qu'il est élu. Depuis un an, il a placé plusieurs de ses supporters à des postes enviables. Alors on va prendre quelques exemples. 1, 2, 3, 4, tout simplement. Hein. Alors Madame Chantal Jouanneau, elle a 48 ans, elle est ancienne ministre des Sports de Nicolas Sarkozy. Alors cette ex-sénatrice centriste de Paris a été l'une des premières constructives à répondre à l'appel d'Emmanuel Macron en mai 2017. Après son retrait de la politique, en septembre, l'ancienne championne de karaté a été nommée par le président à la tête de la Commission nationale du débat public, un poste rémunéré 6 000 euros par mois environ. Débat public à coup d'ATMI. Un autre, Arnaud Leroy, donc il a 42 ans, c'est un ancien député socialiste. C'était un proche d'Arnaud Montebourg, il a été l'un des premiers élus à rejoindre Emmanuel Macron. Après l'élection présidentielle, il a été membre du Triumvirat qui a dirigé La République En Marche pendant quelques semaines. Eh bien, Emmanuel Macron l'a nommé président de l'ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. C'est pas pour dire, mais en ce moment, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, elle mériterait quand même quelqu'un de compétent, de motivé, voilà. Eh bien, c'est lui, c'est ce monsieur, c'est un copain. Il faut quand même savoir que c'est pas peut-être inintéressant à savoir. Son prédécesseur à la tête de l'ADEME, il recevait 164 000 euros par an. Pardon. Alors Sylvie Goulard, une ministre, hein, ancienne plutôt, elle a 53 ans, c'est une ancienne députée européenne Modem. Alors comme François Bayrou, elle a soutenu Macron à l'élection présidentielle. Elle a été nommée par Macron ministre des Armées en mai 2017, mais voilà, c'était narque, elle a dû renoncer à son poste en juin de la même année, après l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Alors encore une qui a des casseroles quelque part. Alors bon, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais enfin. Et donc en janvier dernier, elle a été nommée, bien entendu, par notre président, second sous-gouverneur. Vous voyez un peu le niveau, hein. Il y a un gouverneur, il y a un sous-gouverneur, il y a un second sous-gouverneur. Elle est là, débordée de boulot, hein. En janvier dernier, donc elle a été nommée second sous-gouverneur à la direction de la Banque de France. Voilà, sa rémunération annuelle dépasse les 300 000 euros par an. Allons-y pendant qu'on y est. Et pour terminer, mais pas, il en resterait encore beaucoup, Juliette Méadel, je ne sais pas comment on dit, elle a 44 ans. Elle est ex-secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes de François Hollande. Alors c'est énarque encore, et la première ministre socialiste a appelé Emmanuel Macron dès le premier tour. En janvier, donc le président la nomme conseillère référendaire à la Cour des comptes, un grade élevé alors qu'elle n'avait été que rapporteuse extérieure. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise ? Après, on s'étonne que malgré les casseroles qu'ils ont aux fesses pour certains, malgré les condamnations, malgré même la prison, certains élus continuent à se faire élire, ben pourquoi pas, hein. On prend la famille Balkany, on va interroger les gens dans la rue. Mais pourquoi vous continuez à voter M. Balkany? Il est en procès, il a été jugé, il a eu des amendes, etc. et tout. Ben écoutez, tout le monde fait ça, et puis lui, on l'aime bien, on le connaît depuis longtemps. Mais regardez les autres, alors voilà. Et puis M. Alain Carignan, l'ancien maire de Grenoble, il a quand même fait un certain nombre d'années de prison, dont un certain nombre à la prison de Villefranche-sur-Saône, du reste. Eh bien voilà, il est toujours présent, il a voulu se représenter à Grenoble. Heureusement, il n'a pas été élu, mais il a toujours des velléités de revenir à la politique. 2 ou 3 ans de prison, je crois qu'il a fait, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Après on s'étonne, on dit... les gens, ils savent pas comment voter, ils se désintéressent de la politique, voilà. Et bien après, cherchez pas. La réponse est dans cette distance folle et dans cet appât du gain. On va le dire comme ça, il n'a pas des places chaudes, voire des fois du pouvoir, qui est dans la tête de ces anciens mondes, des représentants de cet ancien monde, dont certains sont tout jeunes et ont accompagné Emmanuel Macron au président. Hein. Le temps ne fait rien à l'affaire, comme disait l'autre. L'âge n'a rien à voir, hein, quand on est. Hein. Voilà, on va s'écouter maintenant en hommage à quelqu'un qui, au vu de de toutes ces magouilles, de toutes ces faiblesses, de ce manque de motivation, de ces intérêts personnels qui sont parfois amorcés, soutenus, initiés par des lobbies industriels, des lobbies de la voiture, des lobbies du pétrole, des lobbies de l'énergie, de l'EDF, de l'alimentation, de la production alimentaire industrielle, etc., etc. On va s'écouter une chanson. Une chanson que je dédie à Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui a donc eu, la bonne idée, le courage, même si ça lui a coûté, ses larmes en sont témoins, car sa motivation était sincère, de quitter ce gouvernement de Monsieur Jupiter. Voilà, c'est Michel Delpech, le chasseur.
Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages. Au bout de leur voyage, oui, tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages.
Voilà, donc j'avais préparé d'autres choses après Nicolas Hulot. Je voulais vous parler, mais j'en parlerai une autre fois, d'un autre futur qui aurait pu être candidat, donc qui n'était pas candidat, mais qui avait été évoqué par Emmanuel Macron pour remplacer Nicolas Hulot, c'est Monsieur Pascal Canfin, donc qui est directeur général du WWF, qui a eu la bonne idée de refuser en disant que c'était pas son monde et que n'importe comment il était là, pas là pour. Pour être un alibi ou un faire-valoir. Le WWF qui vient de sortir un rapport, un immense rapport sur les solutions existent, il faut les appliquer, les mettre en place, il faut du courage politique, mais il faut aussi du courage individuel. J'entendais dire qu'à problème global qu'est le réchauffement climatique, il faut des solutions globales, bien sûr, ce n'est pas faux. Mais pour que ces solutions globales existent, soient réellement travaillées, mises en place, en mettant de côté tout ce qui est justement les intérêts particuliers des lobbies et d'autres, eh bien, il faut des politiques. Or, actuellement, nous n'avons pas de politique au gouvernement, ou très peu. Et ces solutions, donc, à ce problème, eh bien, elles sont aussi de notre fait, du fait de la population. Nous avons des choix à faire, notre bulletin de vote, bien entendu. Mais alors, voilà. Avant de voter, on ne vote pas pour le plus beau de la classe, hein, ou le plus beau parleur de la classe, ou le gendre idéal de la classe. On vote pour un programme, mais ce programme, il faut le lire, il faut le comprendre, il faut par des actions communes, associatives, syndicales, etc. Il faut essayer de le co-construire. Et il faut aussi, dans sa vie de tous les jours, eh bien, ma foi, mettre en œuvre ce qu'il est possible de faire. Alors, ce rapport du WWF, il pose le problème du jour du grand dépassement, vous savez, ce jour où la planète a dépensé la totalité en une année de ce que les gens consommaient, où la population de la planète a consommé la totalité de ce que la planète peut produire. En contrepartie, c'était pour la France, c'est en mai, et puis pour le monde, c'est en août. Donc maintenant, en ce moment, tout le monde, le monde entier vit à crédit. C'est-à-dire qu'on est en train de pomper les réserves des années suivantes. Voilà. Donc ça nous présage des journées gaies et riches. Voilà, on parlera de tout ça ce jour du dépassement et des solutions à mettre en œuvre. Une autre fois. Voilà, on va écouter le générique final. Salut à tous, au mois prochain.